France Inter, franceinter.com. Service public.
Les terriens de l'Alliance pour la planète sont tout retournés. Ce collectif de militants anti-pub et d'associations environnementales dénonce la récupération par la pub des arguments écologistes. Alors sur nos télés, dans nos radios ou nos magazines, des produits polluants ou forts consommateurs d'énergie se vanteraient ou se vantent en fait d'être écologiques. Alors l'Alliance parle d'enjeux planétaires qui sont minimisés, d'une image verte dont se parlent les entreprises, et cette image serait non conforme à la réalité. Que nous cachent ces publicités ? Êtes-vous choqué par le détournement abusif de certains symboles par les publicitaires ? Pensez-vous que les annonceurs parfois nous mentent ? Et si oui, sont-ils contrôlés et sanctionnés ? C'est en tout cas le thème de ce service public qui est préparé par Périne Malinge, réalisé par Lilian Allôme, assisté de Julie Bernard et de Léa Froment, et nos deux techniciens du jour, Clotilde Thomas et Pascal Baldassari. Voilà, pour ma part, j'attends toutes vos questions, vos réactions par téléphone au 01 45 24 7000 ou sur franceinter.com à la rubrique de l'émission, bien sûr.
Service public, Olivier Gesbert.
Publicité et écologie ne font pas toujours bon ménage. Ce matin, service public part se mettre au vert avec deux invités. Anne Chanon, d'abord, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable des questions déontologiques au BVP. Mm-hmm. Le BVP, c'est le bureau de vérification de la publicité.
Absolument.
Et également avec nous, Jacques-Olivier Barthes, vous êtes directeur de la communication de VVF. VVF qui est membre de l'Alliance pour la planète. L'Alliance pour la planète, c'est un collectif de 80 associations, ONG. Mais là, sur cette question de la publicité, il y a une trentaine d'associations qui se sont mis au boulot et qui soutiennent cet appel, donc cette campagne contre le mélange publicité-écologie. Vous avez quelque chose à dire tout de suite?
Oui, déjà je voulais vous dire bonjour Olivia, puis vous souhaite une très bonne année, puis en profiter pour souhaiter une très bonne année aux auditrices et auditeurs de France Inter au nom du WWF. Donc sur cet atelier, on est...
Vous essayez de vous les mettre dans la poche, là,
non,
le
pas
début,
du tout, non, mais
c'est un débat aujourd'hui.
C'est important aussi d'avoir une certaine courtoisie.
Vous allez parler sans nous dire le sigle VVF toutes les deux minutes.
Non, non, je vous rassure, D'accord,
je peux commencer?
Allez-y.
Ou vous aviez autre chose à ajouter?
Non, je voulais juste vous dire que sur cet atelier, il y avait 34 associations.
34. C'est noté. Voilà. Alors par cette campagne qui a été lancée le mois dernier, ces 34 associations du collectif L'Alliance pour la planète entendent manifester leur ras-le-bol de voir utiliser à tort et à travers des symboles écologiques à des fins bien sûr mercantiles. Et plus encore, pour faire vendre des biens comme les voitures, l'énergie nucléaire, le pétrole, dont l'utilisation est tout sauf bénéfique à notre planète. Est-ce que j'ai bien résumé votre appel, votre campagne, Jacques-Olivier Barthes ?
Oui, tout à fait. Donc on a quatre, je dirais... point essentiel qu'on a soumis à la profession et au pouvoir public, c'est mettre fin à l'utilisation abusive de l'argument écologique. Ça, c'est le premier point. Demander un changement de la profession, faire une modification dans la régulation telle qu'elle est actuellement organisée en France et essayer de faire comprendre l'impact environnemental qu'a la publicité au niveau des modes de consommation.
Alors la régulation, expliquons tout de suite justement la présence ce matin d'Anne Chanon du BVP à nos côtés. Le BVP, je le disais, c'est le bureau de vérification de la publicité. C'est un bureau qui est également composé, est-ce que je vais me tromper, d'annonceurs, de publicitaires et d'afficheurs. C'est un organisme de contrôle de la publicité qui est composé un peu de la crème de la profession et qui vit sur les cotisations de ses membres. Alors, erreur.
Non, pas du tout.
C'est bon,
non. À peu près. Exact.
D'accord, on va repréciser tout
ça. Non, mais c'est exact.
On va repréciser tout ça. Je voulais vous demander, alors pourquoi le BVP, donc on se disait, parce qu'en gros, l'Alliance vous reproche à vous, vous cible, vous montre du doigt, vous reproche de ne pas faire vraiment votre travail en laissant passer des publicités qui ne seraient pas très déontologiques.
Alors, pour revenir sur la question, sur le système de régulation de la publicité en France, le système de la régulation... La publicité en France est extrêmement large. Quand on entend que la publicité peut se permettre de raconter n'importe quoi, en fait, les gens qui disent ça racontent n'importe quoi. Parce qu'on a un système de régulation extrêmement développé, dont le BVP est une composante importante, une composante ancienne. Hein, ça fait 70 ans, enfin plus de 70 ans maintenant que le BVP existe. Mais ça n'est pas la seule composante. Alors, on va pouvoir faire un focus sur le BVP si vous le souhaitez. Mais le BVP, donc, ce sont les professionnels qui ont donné la mission à un organisme de formuler des règles déontologiques pour éviter que la publicité dérive, se permette des...
De les formuler, mais aussi de contrôler la bonne application.
Voilà, et de contrôler l'application. Mais donc, il y a le BVP. qui fait un travail énorme. Hein. Il y a plus de 30 000 publicités qui sont vues chaque année par le BVP.
30 000 sur combien ?
30 000, alors je ne connais pas, mais sur la publicité télé, par exemple, c'est tout, c'est 100%. Sur les autres supports, vous avez 17 000, en gros, 17 000 publicités qui sont vues. On va dire, alors monsieur qui connaît la pub pour y avoir travaillé, le saura peut-être mieux que moi, mais en gros, ça doit représenter 30-40% de la production publicitaire. Simplement, je finis sur le fait que la régulation de la publicité, c'est un système très large. Les associations en font partie en tant qu'organismes de vigilance, de critique.
Quelles associations ? Des associations écologiques, écologistes.
Pas du tout.
Non, au sens, si vous voulez, il y a un système.
Bon, enfin,
un
grosso
système
modo, quand
regard.
Même, pour que les auditeurs y voient clair, le BVP, c'est un organisme composé majoritairement des professionnels de la publicité, des
Absolument.
Annonceurs.
Absolument. Les associations
Après,
ne font pas partie
y a des
du BVP.
On peut
Simplement, il y a un système de
regard extérieur.
Il y a un système de regard extérieur, l'État, les associations, etc., qui participent au fait que la publicité ne peut pas se permettre de fonctionner en vase clos et de raconter n'importe quoi. C'est ça que je voulais dire.
Donc, il y a une obligation. La publicité télé doit passer devant le BVP pour recommandation, hein, d'accord. Mais la publicité presse écrite, affichage, radio, il n'y a pas d'obligation.
Pas du tout.
D'accord. Vous êtes un ancien publicitaire, en fait,
oui,
Jacques-Olivier Barthes.
Oui.
Et comment pourquoi vous avez quitté ce milieu magnifique ? On gagne bien sa vie là-bas, non ?
Vous voulez dire le milieu formidable de la consommation ?
Vous êtes un repenti, en fait, c'est ça ?
Non,
je
ne suis pas Frédéric Becbédé. J'ai pas besoin de faire un coup de pub sur ma carrière personnelle. Non, j'ai simplement, comme beaucoup de gens dans la publicité, j'ai un certain nombre de valeurs et j'ai considéré que ces valeurs ne pouvaient pas arriver à s'exprimer normalement dans un milieu où il y a une forte, qui est très conservateur et où il y a une forte coercition qui ne dit pas son nom mais qui est réelle.
Alors vous en avez gardé les lunettes mais l'esprit, l'état d'esprit a complètement changé. On va voir ça tout de suite. Prenons, je vous propose une image.
Juste un point si vous voulez bien, Olivia, sur ce qu'a évoqué Anne. Il y a 800 à peu près membres du BVP. Il faut savoir que l'adhésion se fait sur le volontariat. Donc vous avez plein d'agences qui ne font pas partie du BVP. Et donc ça pose un problème en termes de régulation. C'est-à-dire que sur le flux des messages qui passent par le BVP, il faut être membre du BVP pour être visé. Hein. Donc, c'est quand même, ça limite énormément une profession.
Pour la publicité télévisée, ce n'est pas exact.
Pour la publicité sur les spots, sauf qu'actuellement, la publicité télévisée, c'est pas l'essentiel de ce qui est actuellement fourni.
Si vous le voulez bien, tous les deux, avant d'entrer dans le débat sur le BVP, ses missions, son contrôle, les éventuelles sanctions que le BVP peut ou ne peut pas prononcer, j'aimerais qu'on reste à ces campagnes publicitaires que vous dénoncez aujourd'hui et qu'on prenne. Maintenant, tout de suite, un cas pratique. C'est une publicité d'EDF, le vendeur d'électricité, bien sûr. Et cette publicité utilise de l'image. Elle utilise l'image des peuples premiers. On l'écoute.
Il y a bien longtemps, les habitants de l'île de Pâques construisaient de grandes statues pour honorer leurs ancêtres. Ils les sculptaient dans la pierre et les transportaient sur des rondins de bois. On raconte qu'ils coupèrent tant d'arbres que leur petite île n'eut plus de forêt. Leur civilisation n'est plus, mais les statues sont toujours là. Elles nous rappellent que les énergies qui font les civilisations peuvent aussi les défaire. En consacrant 1 million d'euros par jour à la recherche, EDF développe les énergies de demain.
Alors Jacques-Olivier Barthes, est-ce que cette publicité d'EDF est ciblée, notamment par votre campagne ? Qu'est-ce que vous pouvez lui reprocher à cette publicité ? Quelle fausse idée est-ce qu'elle mettrait dans la tête des gens ?
Mais écoutez, bon, cette publicité a été critiquée. Alors faut déjà juste un petit point, parce que sur la présentation qu'elle a faite, l'Alliance pour la planète n'est pas foncièrement anti-publicitaire. Ça c'est important, parce qu'on a un peu tendance à toujours mettre anti. Et comme vous le savez, l'adage, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc on n'est pas anti-publicitaire, on souhaite simplement que la publicité ait sa place, toute sa place, mais rien que sa place, c'est-à-dire qu'il retrouve une certaine humilité et qu'on ne soit pas dans la mésinformation. Donc ça, c'est quand même un point important. On n'est pas dans l'anti, c'est dans la pure dénonciation.
Alors là, cette publicité EDF, en quoi est-ce qu'elle ne respecterait pas une certaine éthique ?
Par rapport aux recommandations écologiques du BVP, si vous voulez, on trouve qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'EDF nous dit qu'ils investissent dans, les énergies de demain, sans dire exactement quelle part entre le renouvelable et le nucléaire et ventilé, ça c'est le premier point. Et le second point, implicitement, ce qui est assez classique en langage publicitaire, c'est-à-dire qu'on fait du recadrage, on dit que le nucléaire est une énergie de demain, sans poser les problèmes que, évidemment, pose le nucléaire, c'est-à-dire on a quand même un problème essentiel qui sont sur les déchets. Donc là-dessus, on a critiqué. Deuxièmement, sur les codes, donc on utilise le livre de Jared Diamond sur la fin des civilisations, qui explique que bon, sur l'île de Pâques, l'un des problèmes, c'était la surutilisation des ressources qui a amené la fin de la civilisation de l'île de Pâques. Et donc avec un message, une expression publicitaire, je dirais, avec des codes qui associe implicitement l'écologie avec le message d'EDF. Donc là-dessus aussi, on a critiqué, c'est-à-dire que ça ne correspond pas aux recommandations du BVP depuis 1998 sur les arguments écologiques.
Alors, Anne Chanon, réponse, cette publicité EDF, déjà, est-ce que vous l'avez vue passer au BVP? Oui, puisque c'est une publicité
absolument,
télé.
Absolument, elle est passée à la télévision, donc
et
elle est passée au BVP.
Avis négatif ou avis positif?
Avis favorable, et avis favorable pour plusieurs raisons. Si vous voulez, on est en présence de deux points de vue tout à fait respectables. D'un côté, celui grandissant de la population, et c'est important, et des associations qui font la promotion de cette idée du développement durable, qui est importante, qui est lourde, qui est grave pour tout le monde. Mais de l'autre côté, des annonceurs qui investissent fortement sur ce chantier du développement durable. Et personne ne se plaindra que des entreprises de la taille d'EDF, dont les impacts environnementaux sont ceux d'EDF, se préoccupent du développement durable.
Donc
ces
entreprises... Est-ce que dans les faits, EDF se préoccupe vraiment du développement durable? Si EDF, la réalité EDF coïncide
comme
avec la publicité,
EDF,
là, il n'y a
comme
pas de
d'autres entreprises,
mensongère.
On n'est pas là pour faire la publicité d'EDF, mais EDF, comme d'autres
ou
entreprises... comme d'autres entreprises, investissent fortement. Donc on ne peut pas... Personne ne se plaindra qu'ils investissent. Personne ne se plaindra non plus, je pense, qu'ils puissent prendre la parole sur ce sujet, parce que prendre la parole sur ce sujet, c'est devenir contrôlable, c'est effectivement s'exposer à la critique des associations. C'est à partir du moment où vous dites « je fais quelque chose », vous avez des gens autour de vous qui regardent et qui disent « est-ce que vous le faites vraiment ?» Et ça, c'est une démarche importante. Je terminerai simplement sur le fait que le développement durable des entreprises, c'est ce qu'on appelle une démarche de progrès. C'est-à-dire que à partir du moment où on s'engage là-dedans, c'est pas du 100% qualitatif réussi, efficace dès le départ. Il y a une démarche de progrès. Ils s'engagent. Tout n'est pas 100% parfait pour EDF. Simplement, il y a d'énormes investissements qui sont faits par cette entreprise. Donc, oui, avis favorable du BVP et des 10 doigts, on va dire.
Jacques-Olivier Barthes.
Oui, non, mais concernant... Donc là, on est devant une publicité, ce qu'on appelle corporate. Donc, c'est un discours institutionnel d'une entreprise sur ses valeurs. C'est-à-dire, c'est le spot traditionnel, institutionnel. On met en avant les valeurs de l'entreprise. D'ailleurs, il ne vous a pas échappé que dans les critiques qu'on a faites, c'est pas essentiellement les spots, je dirais, institutionnels. On a beaucoup critiqué les produits, parce que l'impact, c'est aussi beaucoup sur les produits. Ce qui nous pose un problème par rapport à la publicité EDF, c'est, je dirais, une banalisation du discours sur le développement durable, où on se retrouve avec un discours et on attend aussi des faits. Donc, comme le disait Anne, en effet, il y a des gros investissements des entreprises françaises et pas d'ailleurs que françaises dans ce domaine. Ce qu'on souhaiterait, c'est que ça puisse être vérifié aussi dans les faits. Et l'une des questions qu'on pose, c'est pourquoi les associations, en particulier environnementales, les ONG, ne peuvent pas le vérifier. C'est-à-dire qu'on reste quand même avec un discours tenu par des personnes qui sont entre elles et qui ne tiennent pas particulièrement à ouvrir la boîte de Pandore. Et ça, c'est un problème, je dirais, politique. C'est-à-dire que c'est très facile de parler de la société civile, de parler de gouvernance. Mais en général, l'État, et en plus EDF est une grande entreprise qui vient issue du service public, donc a une posture assez étatique. L'État, les entreprises sont toujours les premiers à se mettre d'accord. Mais quand on demande à la société civile, et que ce soit les syndicats, les ONG, bon, il n'y a plus personne. Et c'est la critique aussi qu'on fait sur le BVP, c'est que quand même, ça reste un club entre professionnels.
Avançons un peu pour voir cette deuxième publicité. On va arrêter de casser du sucre sur le dos d'EDF. On va changer un peu pour le plaisir. On va passer à Total, cette fois Total, qui vante sur cette publicité l'énergie éolienne. Je ne sais pas si vous la voyez bien tous les deux. On voit donc voilà, deux éoliennes en train de tourner dans le vent. Comparaison faite, c'est une avec la libellule. Et vous estimez, vous, à l'Alliance pour la planète, que cette publicité est trompeuse parce que, en fait, Total, dans la réalité, n'aurait simplement placé que 5 éoliennes en France. Ce qui montrerait que la réalité des actions de Total serait pas du tout conforme à ce qu'elle entend mettre en avant dans ses campagnes publicitaires. J'en viens à vous, Anne Chanon, sur justement le rôle du BVP dans un cas comme ça. Si j'ai bien lu votre code de déontologie, il y a quand même inscrit dans vos statuts que la publicité doit prescrire toute déclaration de nature à tromper les consommateurs sur la réalité ou sur les propriétés écologiques des produits, ainsi que sur la réalité des actions que l'annonceur conduit en faveur de l'environnement. Là, qu'est-ce que vous en dites de cette publicité totale?
Cette publicité totale, alors c'est intéressant. Enfin, je répondrai tout à l'heure à l'histoire du club entre professionnels, parce que quand même, on ne peut pas laisser passer. Mais cette publicité totale, c'est intéressant. Je précise que ce travail de l'Alliance est un travail tout à fait louable qui consiste à essayer d'objectiver un débat public. C'est bien, on a des arguments sur lesquels on peut travailler, sur lesquels on est d'accord.
Mais
ou pas
là,
d'accord,
objectivement, hein. C'est quand même une publicité mensongère.
Ce n'est pas une publicité mensongère. Si vous
c'est-à-dire que les 5 éoliennes qui ont été placées, pour vous, servent de caution, finalement, à cette publicité?
Non, on revient sur ce que je disais sur la démarche de progrès. On a là une entreprise dont l'activité essentielle tourne autour des hydrocarbures.
Du pétrole, de la chimie et du gaz. Hein.
Qui, à l'heure actuelle, n'a mis effectivement en fonctionnement que 3 éoliennes. Dans sa publicité, ce que vous oubliez de préciser, c'est qu'elle indique que Total a été retenu pour construire le plus grand projet éolien en France et faisant appel aux technologies de pointe, Total prépare les grands développements de demain. Là, on est sur l'histoire de la démarche de progrès. Alors après, se pose la question très justement de proportionnalité de la promesse. Est-ce qu'on peut parler des éoliennes quand, pour l'instant, on est sur quelque chose qui reste quand même infinitésimal? C'est une bonne question. Simplement, on met où le curseur? Pour nous, c'est très compliqué au BVP, qui ne sont pas spécialistes du développement durable. C'est dire, à partir de quel moment Total aura le droit de parler des éoliennes? À partir de 3, de 10,
à partir du
10,
moment où ça représente vraiment 100, une part conséquente de son activité, non? Après, on verrait une nappe de pétrole sur la publicité. Je pense que personne ne serait choqué de voir cette correspondance.
Je reviens à ce que je disais, Total disant ça. Effectivement, la question est tout à fait légitime, mérite d'être posée. Mais au quotidien, on est confronté à des projets comme ça où on se dit, est-ce que ce qu'ils nous disent, effectivement, là, telle entreprise nous dit qu'ils travaillent avec le commerce équitable à X%, est-ce que c'est beaucoup, c'est pas beaucoup? Est-ce que 10% c'est beaucoup? Est-ce que 5% c'est beaucoup?
Et ça se pose, ce genre de règles. À partir de quand allez-vous décider de mettre des barèmes, des niveaux de référencement, justement, pour pouvoir vous-même vous repérer là-dedans et pouvoir faire votre travail, à savoir vérifier les publicités?
C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Par exemple, si on vient sur les véhicules hybrides, on dit tout le monde reconnaît que les véhicules hybrides, le fisc y compris, qui donne des crédits d'impôt, reconnaît que les véhicules hybrides, c'est plutôt mieux qu'autre chose. Simplement, après, vous allez avoir des critiques qui vont dire, oui, mais les véhicules hybrides sont des gros cylindrés et donc, du coup, ils émettent des CO2 bien plus que des petites cylindrées. C'est exact. Simplement, où on met le curseur? Vous voyez, on est dans des questions techniques compliquées où il n'y a pas une seule réponse. Et l'idée qu'une entreprise s'expose au regard de tout le monde en commençant à parler là-dessus, c'est déjà une chose importante.
Je demande votre avis. Il n'y a pas une réponse, mais votre réponse à vous sur cette publicité, vous la trouvez bonne, cette publicité?
Cette publicité conforme. A été soumise au BVP, nous l'avons jugée conforme et nous avons demandé effectivement de rajouter des précisions sur la nature du programme dans lequel le Total s'engageait.
Jacques-Olivier Barthes, c'est aussi le rôle de la publicité de mettre en valeur les annonceurs. On ne va pas forcément les stigmatiser, de monter des aspects positifs de l'action des annonceurs, non?
Non, tout à fait. Non, mais je voudrais répondre sur ce que vient de dire Anne Chanon. Déjà, le premier point que j'ai trouvé intéressant, c'est Anne Chanon nous dit qu'ils n'ont pas d'expertise sur le développement durable. Donc pour juger de la véracité d'une promesse, ou savoir si on est en surpromesse dans une publicité quand on n'a pas d'expertise, on voit toute la limite actuellement du système d'auto-vérification de la pub. C'est quand même un problème quand vous n'avez pas d'expertise sur la question, pour donner un jugement, on a déjà trouvé mieux. Deuxièmement, sur la question de la responsabilité sociale de l'entreprise, moi je vais me fonder sur ce qui sort actuellement aux États-Unis. Vous avez le dernier numéro de la Harvard Business Review, qui n'est pas, je dirais, une revue de dangereux gauchistes écologistes, qui explique que la responsabilité sociale de l'entreprise, elle doit être intégrée dans la stratégie et dans le cœur du métier. Dans le cas de Total, le cœur du métier, c'est les hydrocarbures. Ce qu'on attend des Total, c'est savoir qu'est-ce qu'ils font sur les hydrocarbures. C'est pas nous mettre en avant, leur implication dans le développement durable à la marge. Quand vous demandez la responsabilité sociale de l'entreprise dans l'industrie pharmaceutique, vous demandez simplement de savoir comment ils s'engagent sur les brevets pharmaceutiques, sur le cœur de métier. Vous voulez pas savoir si l'ensemble de la flotte captive de voitures de Pfizer roule en Prius ou en vélo. Je veux dire, ça, c'est de la marge. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le cœur de métier. Et pour finir, quand Anne nous dit quand même, les entreprises s'investissent beaucoup, je vous rappelle que le rapport Stern a quand même chiffré le réchauffement.
C'est quoi le rapport Stern?
Le rapport Stern, c'est donc le rapport qui a été présenté par un économiste anglais sur l'impact du réchauffement climatique. C'est 5500 milliards d'euros. Donc, on ne dit pas que c'est pas la facture, c'est tout le monde qui va la payer. Donc, je pense que c'est quand même important de remettre les choses, je dirais, en perspective.
Un message de Flavie qui nous écrit de Strasbourg et qui dit « Je suis tout à fait d'accord avec la position de l'Alliance pour la planète. Cependant, la pub est une expression de liberté. Il serait une erreur, à mon avis, de vouloir lui imposer des discours. Ne serait-il donc pas envisageable d'éduquer à la publicité, c'est-à-dire apprendre à décrypter les messages, à trouver les pièges, en quelque sorte développer un peu plus l'esprit critique de chacun ?» Il est 9h50 sur France Inter et on écoute tout de suite un peu de musique avec Manu Chao, Petite Brune d'un boulevard brune.
Ce soir, Manu Chao en Sibérie, avec la force et l'enthousiasme universel. Sibérie, Manu Chao.
Boulevard brune, il est minuit, elle était blonde et si jolie, comme si la brume s'était posée sur mon regard, sous les pleins phares, petite blonde du boulevard brune. Je t'allume et je te fume le long du quart de la police. Au coin du square, tu ne dis rien, quel est ton nom, je ne sais pas. Où est-ce que tu vas, je ne sais plus. Petite blonde du boulevard brune, je t'allume et je te fume.
Y'a pas de problème, le spectacle commence.
Petite blonde du boulevard brune, je t'allume et je te fume. Au coin du square, ma jolie blonde, le long du car, il est minuit. Je te regarde, tu te consumes, le long du car de la police. Où est-ce que tu vas, où est-ce que t'étais, je ne sais pas, on ne dit rien. Petite blonde du boulevard brune, je t'allume et je te fume. Au coin du square, sous les pleins phares, je te confie mon amertume.
Esclavagiste social, le royaume de la pourriture, c'est moi, c'est Aldo, le roi des pourris.
Les chiens ont soif, les pigeons volent, la marée pleine des chiffres d'or, il pleut des larmes de crocodile, la vie est belle, le monde pourri. Les chiens ont soif, les pigeons volent, la marée pleine des chiffres d'or, il pleut des larmes de crocodile, la vie est belle, le monde pourri. Les chiens ont soif, les pigeons volent,
nous sommes dans un monde pourri. Et dans ce monde pourri,
les chiens ont soif, les pigeons volent,
y'a que des méchants. Il y a plus de mauvais que de juste.
Paris le jour, Paris la nuit, Paris les flics, Paris puni. Petite blonde du boulevard brune, dans la fumée mon infortune. Au coin du square, je te dis viens. Au coin du square, viens donc enfin. Petit mégot sous ma semelle, petite blonde du boulevard brune. Petit mégot sous ma semelle et les képis qui m'importunent. Encore une fois, d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu vas? Rien dans les poches, la nuit est moche, je ne sais pas, je ne dis rien. Boulevard brune, il est minuit, elle était blonde et si jolie. Petite blonde du boulevard brune,
y'a pas de problème.
Les chiens ont soif, les pigeons volent, la marée pleine des chiffres d'or, il pleut des larmes de crocodile, la vie est belle, le monde pourri. Les chiens ont soif, les pigeons volent, la marée pleine d'infortune, il pleut des larmes de crocodile, la vie est belle, le monde pourri. Les chiens ont soif, les pigeons volent,
y'a pas de problème.
Les chiens ont soif, les pigeons volent. Les chiens ont soif, les pigeons volent.
Y'a pas de problème.
Nous sommes dans un monde pourri.
Voilà, vous êtes toujours sur France Inter et aujourd'hui on parle publicité et écologie. On doit avoir avec nous en ligne Mathieu Vinci-Guerra qui est publicitaire, qui est créatif. Bonjour.
Bonjour.
Je voulais savoir avec vous, comment se réalise un peu une campagne? Est-ce que vous avez un cahier des charges très précis de l'annonceur ou est-ce que vous avez une totale liberté?
Ça dépend de quel genre de campagne vous parlez. Une campagne sur l'environnement ou en général?
Une campagne pour un grand annonceur. Je crois que vous avez travaillé notamment pour Total, dont on parlait tout à l'heure.
Oui, en général, il y a quand même un cahier des charges assez précis, c'est-à-dire...
Cette campagne, pour parler plus précisément de Total, utilisait justement des symboles, des arguments écologiques. Est-ce que ça, c'est vous qui avez eu cette idée-là ou est-ce qu'on vous l'a demandé?
Non, elle n'utilisait pas spécialement un symbole écologique, celle qu'on avait faite. C'était juste pour du goudron Total qui a la qui a particularité de tenir assez longtemps. Et voilà, donc après le visuel, parler de se passer dans la nature, l'image, c'était en gros la route qui symbolisait une ligne de vie qui passait à travers un champ qui avait la forme d'une main, voilà, donc ça disait une durée de vie exceptionnelle, voilà.
D'accord, et, ça nous ramenait dans l'air.
Et ça vendait du bitume, mais ça parlait pas d'écologie. Ceci dit, effectivement, quand on est briefé donc sur une campagne, on peut pas faire tout et n'importe quoi sur un grand annonceur. Et en général, c'est très précis. On sait exactement de quoi on doit parler, qui on ne doit pas, enfin à qui on s'adresse et est-ce qu'il faut faire ou pas faire. Quoi.
Vous diriez qu'il y a un effet de mode en ce moment autour de toutes ces thématiques écolo?
Bah oui, mais je dirais tant mieux.
Pourquoi tant mieux?
Bah tant mieux parce que c'est important l'écologie et si même si c'est un effet de mode et l'écologie fait peut-être plus vendre comme le développement durable, comme le commerce équitable, je trouve que c'est ça peut être un côté positif de la consommation. C'est les gens n'arrivent pas, enfin l'écologie a du mal à percer d'elle-même. Bah, si ça peut la faire percer, moi je dis pourquoi pas.
Mais vous ne craignez pas qu'en fait cette utilisation à toutes les sauces de l'écologie risque d'affaiblir peut-être la démarche des entreprises qui agissent véritablement en faveur d'un progrès écologique, qu'on risque d'user le public, les consommateurs?
Mais je trouve pas que c'est abusé. Enfin, je vous entendais parler de Total donc avec les éoliennes. Effectivement, s'ils ont mis que 5 éoliennes enfin moi je suis là pour défendre personne ou accuser personne, mais s'ils ont mis que 5 éoliennes en place, effectivement ça fait peu pour parler, commencer à faire une pub et dire ouais c'est génial on met des éoliennes. Ceci dit, je trouve que c'est toujours mieux que rien. Et si dans la même publicité ils disent voilà le début de notre programme, on se met à faire des éoliennes et c'est en work in progress, enfin je trouve ça plutôt positif, même si après on peut toujours critiquer ces entreprises, que ce soit EDF, Total ou les autres, même McDonald's, qu'on les accuse de ce qu'on sait, mais toujours est-il que je préfère qu'ils fassent des gestes, qu'ils fassent rien du tout, quoi.
D'accord.
Je préfère en parler parce que je vois pas. Enfin, j'entendais le monsieur dire aussi, nous, ça nous intéresse pas de savoir ça, on veut juste savoir ce qu'ils vendent, mais au final, moi, ça m'intéresse aussi de savoir que Total, ils font des actions pour la planète. Et encore une fois, même s'il y a un effet de mode, je trouve ça plutôt, je trouve ça positif. Ça peut...
Merci Mathieu Vinciguerra. Je précise qu'aujourd'hui, d'ailleurs, vous travaillez avec la Fondation Nicolas Hulot, ce qui fait de vous un schizophrène, entre guillemets. Dites-nous justement, Jacques-Olivier Barthes, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment donc ce devoir d'information? Vous êtes d'accord là avec Mathieu Vinciguerra, comme quoi on n'est pas obligé d'informer sur les activités essentielles des entreprises, qu'on peut aussi pouvoir ouvrir un peu son champ?
Oui, non, mais le problème, c'est bien évidemment, c'est qu'est-ce que vous présentez dans votre activité. Si vous présentez des bonnes pratiques sur la marge, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'essentiel de votre activité. Vous voyez, vous pouvez dire, dans la semaine, j'ai une journée où je suis quelqu'un de particulièrement responsable, et 6 jours de la semaine où je ne suis pas du tout responsable. C'est une question de bon sens. Qu'est-ce qui est important, c'est de juger de la journée où vous êtes responsable ou des 6 jours où vous n'êtes pas responsable? Voilà, donc c'est exactement le même problème pour une entreprise. Juste pour terminer là-dessus, il y a quand même une livraison, un sondage de LH2, donc ex-Louis Harris, sur les Français et le développement durable, où les Français, 4% des Français considèrent que les entreprises, 4%, c'est rien du tout, ont un bon engagement pour le développement durable. Donc la critique que l'on fait actuellement de la publicité des entreprises, on leur rend service. Quand Christophe Lambert, ancien vice-président de Publicis, dit dans son livre « La société de la peur », il dit qu'il est nécessaire que les entreprises assument leurs responsabilités. Nous, on le prend en mot. On dit très bien, on va juger sur pièce. Et ce qu'on voit, le compte n'y est pas. Donc, on demande à ce qu'en effet, les entreprises se reprennent. C'est déjà, on leur rend service en termes d'image.
Beaucoup d'auditeurs nous parlent de la publicité Bloc Béton, qui est diffusée notamment par Radio France en ce moment. Cette publicité, je crois, fait référence aussi à l'environnement, estimant que le béton ne nécessite pas tant de cuisson et qu'il n'est pas forcément aussi mauvais que ça, que le produit créé par ses concurrents. Il y a peu de publicité sur France Inter, mais celle-là, elle a tout de suite été épinglée par au moins une dizaine d'auditeurs ce matin. Vous la citez dans votre campagne également.
Oui. Écoutez, là aussi, c'est le problème sur les produits, c'est qu'on souhaite quand même globalement, sur les arguments marketing de vente, que ce qui est présenté soit un peu plus vérifié. Donc sur la question du béton, c'est une question qui est en discussion. On ne peut pas asséner une réalité, une vérité en disant regardez, le béton est un matériau de construction écologiquement correct. Il y a plein d'autres matériaux de construction qui sont bien plus bénéfiques en termes d'impact environnementaux que le béton.
Anne Chanon, le BVP avait le droit de dire ça ou pas? Le BVP, pardon, a vu passer cette publicité Bloc Béton. Est-ce que le Bloc Béton avait le droit de dire ça ou pas?
C'est compliqué, ça illustre ce que je disais tout à l'heure sur l'expertise technique que demande le fait d'évaluer ce type de publicité. Il y a des sujets, par exemple l'image de la femme, qui est aussi très controversée dans la publicité, qui demande, disons, plutôt du bon sens, de l'appréciation De la nuance. De bon sens, voilà. Alors que là, on est, vous en conviendrez, sur cette histoire de béton, c'est quand même très, très technique. Donc, on est face à ce projet qui ne nous a pas été soumis pour le fait. Et effectivement, la question se pose de est-ce que c'est ou pas légitime. Je n'ai pas de réponse.
Bon, ben on verra ça plus tard. Alors, Anne Chanon et Jacques-Olivier Barthes, on se retrouve dans quelques instants. Publicité et environnement, c'est le thème du service public de ce jour. Les publicitaires et les annonceurs abusent-ils de l'argument écologique pour vendre leurs produits ou leurs services? C'est la question que nous nous posons donc ce matin.
Service public, 01 45 24 7000.
Et avec moi, il y a toujours Anne Chanon, qui est responsable des questions déontologiques au BVP, et Jacques-Olivier Barthes, qui est un ancien publicitaire, mais qui est surtout aujourd'hui le directeur de la communication de VVF et qui est membre de l'Alliance pour la planète, qui lance donc un appel à être un peu plus respectueux des normes environnementales.
Je voulais réagir sur le discours sur la création, parce que c'est un discours assez classique.
C'est-à-dire quand on parle de la liberté de création,
voilà,
du publicitaire,
oui,
ce qu'on disait tout à l'heure.
Oui,
un message d'un auditeur.
Il y a un sophisme qui pose que liberté de création égale liberté d'expression, égale liberté de commerce, égale démocratie. Bon. Moi, ce qui me pose un problème, c'est que ça pose la publicité comme l'art. C'est-à-dire que c'est quand même un discours assez classique dans la création, c'est dire qu'on fait de l'art. Alors qu'on soit clair, parce que ça, je le dis à l'aune de mon expérience de publicitaire, quand on est publicitaire, on est mercenaire d'une marque. C'est-à-dire que l'avant tout, c'est on travaille pour les valeurs d'une marque. Et on met au service de cette marque un discours créatif.
Vous n'êtes pas mercenaire, vous êtes le relais d'une marque. Vous êtes là pour
l'humaniser. Non, on est mercenaire d'une marque. Je peux vous dire que sur, je dirais, dans le cadre du contrat type de l'agence... de l'Association des agences conseil en communication, c'est les articles 9.1 et 9.2 sur les rapports de responsabilité entre l'annonceur et l'agence conseil. C'est clairement défini, vous êtes au service de votre client, enfin c'est pas autre chose.
Donc vous n'avez pas de marge de manœuvre, c'est ce que vous nous dites.
Disons que la marge de manœuvre est relativement limitée. D'ailleurs, le créatif qu'on a tout à l'heure entendu, il le dit, vous avez un brief et vous y tenez.
En même temps, vous n'êtes pas obligé de collaborer si le principe
voilà.
Alors, l'idée
ça,
ne vous plaît pas, non
problème. C'est le problème des valeurs. Je veux dire, des valeurs que peut avoir la profession. Vous prenez quelqu'un comme Olivero Toscani, celui qui a fait les campagnes de Benetton et qui, quand il a commencé à critiquer la profession, il était président du festival de Méribel, qui est un festival professionnel de publicité. Quand il a critiqué la profession, la première chose qu'on a fait, c'est de le virer, présidence du festival de Méribel. Donc il disait, la qualité d'expression et la créativité doivent dépasser le fait qu'il faille vendre quelque chose. C'est-à-dire que normalement, un vrai publicitaire, il doit avoir une capacité, avoir une expression créative qui dépasse simplement l'acte de vente. Or, dans la réalité concrète du travail publicitaire, c'est toujours pas le cas.
Alors, beaucoup de messages de nos auditeurs. On a passé en revue pas mal de publicités déjà dans la première demi-heure, mais je crois qu'on a avec nous Philippe qui nous appelle de Trévérien.
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Vous avez remarqué une autre publicité que vous pointez du doigt comme étant le symbole de ce mélange publicité-environnement?
Oui, tout à fait. J'avais été particulièrement choqué il y a quelques années avec une publicité de Rhône-Poulenc, qui est un des plus grands chimistes français, qui faisait une publicité où on voyait un saumon dans un torrent, alors qu'il est premier producteur de phosphate, qui est un super polluant pour les rivières, qui est en plus totalement inutile dans les lessives, dans les endroits où il n'y a pas de calcaire, c'est le cas en Bretagne où j'habite. Et j'avais été particulièrement choqué, et d'autant plus que cette publicité-là passait au moment où Rhône-Poulenc sponsorisait l'émission d'Ushuaïa qui passait sur TF1 avec Nicolas Hulot. Quoi. Et je trouve que c'est un mélange global, enfin un mélange des genres dans tous les sens, et aussi dans un but mercantile qui est particulièrement... insupportable.
Merci beaucoup Philippe pour ce témoignage, une réaction peut-être de vous Anne Chanon.
Oui, il y a différentes choses qui ont été dites qui sont plus compliquées que ça. Quand on dit que les publicitaires sont mercenaires de leurs annonceurs, ils sont au service effectivement des annonceurs, ils sont là pour faire vendre des produits et des services. Personne ne s'en cache et fort heureusement personne ne pense le contraire.
Oui d'ailleurs, mais pardon, je vous interromps deux secondes, mais je vous redonne la parole d'un message de Philippe qui nous appelle, qui nous a écrit de Belgique et qui nous dit la publicité n'est pas une expression de la liberté, c'est une expression du pouvoir de l'argent, le coût de l'accès aux médias de masse est tel que les citoyens en sont exclus.
Il faut arrêter de se raconter des histoires. Il n'y a pas de contre-pouvoir, si vous voulez. Effectivement, ils sont là pour faire vendre des produits. Et en France, c'est très français. La vente, on trouve ça...
Enfin, un peu sale.
Le commerce, c'est sale. Hein. L'argent, c'est sale. Alors, je ne sais pas si c'est...
Non, la question, c'est est-ce que le profit
justifie les
moyens.
Je ne sais pas si c'est catholique, j'en sais rien. Mais enfin, en tout cas, VVF, sa fonction, on va dire qu'il est mercenaire du développement durable. Il est là au service d'une cause. Alors, est-ce qu'elle est plus propre que le fait de vendre des produits? Si vous voulez, il y a un moment où on parle de de schizophrénie. Vous avez interpellé le publicitaire pour dire vous êtes schizophrénique. Mais VVF aussi a des partenariats avec des grandes entreprises qui font du développement durable. Enfin, en tout cas, qui essayent. Gaz de France. On parlait de EDF tout à l'heure en critiquant, ils font pas ci, ils font pas ça, c'est pas assez bien, ils disent trop, ils disent pas assez, etc.
Non, on n'attaque pas une entreprise en particulier, on donne des exemples.
J'essaie simplement d'illustrer le fait que tout ça est extrêmement compliqué, complexe. C'est le propre du développement durable que d'être complexe. Quand VVF engage un partenariat avec Gaz de France, et tant mieux, c'est très bien que des entreprises comme ça, avec une telle puissance financière s'engage sur des démarches comme ça. Bon, bah, il ne va pas attendre de Gaz de France qui soit impeccablement blanc, impeccablement efficace de 100% en termes de développement durable pour engager un partenariat.
Réponse
c'est très bien,
VVF.
Ils accompagnent Gaz de France dans leur démarche.
Comme je l'ai dit au début, on ne se définit pas comme anti-publicitaire ou on ne se définit pas comme anti-consommation. Ce qu'on demande simplement, c'est qu'on sorte de la mésinformation et la démarche de progrès, on l'assume totalement. Mais nous-mêmes, dans nos pratiques quotidiennes...
Mais alors, arrêtons de critiquer les annonceurs. Si non, mais arrêtons de critiquer les annonceurs qui ne font pas assez.
Si je puis me permettre de finir mon propos.
Mais c'est vrai qu'il y a des nombreux partenariats qui ont été passés entre les ONG, les associations et même des différentes grandes entreprises.
On n'est pas anti-consommation. Enfin, je veux dire, j'ai pas évoqué.
Alors, c'est quoi la limite pour vous ?
Mais ce qu'on demande, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que l'essentiel du cœur de métier soit en démarche de progrès. C'est que, tout simplement, on ne nous montre pas une partie marginale en disant regardez comme c'est. C'est-à-dire, on nous présente la façade et derrière la façade c'est dégueulasse. Nous ce qu'on demande c'est quand même que les gens aient une responsabilité sociale assumée et en plus tout le monde se plaint d'une société de la défiance pour les citoyens. Mais les Français au bout d'un moment quand ils voient qu'en effet on les prend un peu pour des gogos, ils croient plus en rien et donc comme je le disais tout à l'heure, notre démarche qu'une démarche critique constructive, on n'est pas dans la pure dénonciation, c'est aider les entreprises en effet à retisser un lien de confiance avec les consommateurs. C'est quand même...
Alors, quelques messages des auditeurs. Un message de Hervé de Visil qui nous dit « Je suis président de l'association Sauvons le Climat. On a fait un communiqué de presse il y a quelques temps pour dénoncer la publicité de Gaz de France qui conclut en disant que le gaz est une énergie durable. C'est évidemment totalement faux. Cette publicité est mensongère. » Également, un message de Sophie qui nous écrit de Lyon et qui, elle, met en lumière un autre aspect de votre campagne. Jacques-Olivier Barthes, vous n'avez pas besoin de vous éloigner, vous pouvez rester avec nous. Qui parle de la tonne de papier qui peut être dépensée chaque année ou produite chaque année pour produire des prospectus. Et elle ne pense pas qu'avec ça non plus, l'environnement soit épargné. J'aimerais qu'on parle un peu du BVP, de son pouvoir et du contrôle qu'il peut exercer sur ses publicités. Mais d'abord, on va écouter le reportage d'Antoine qui est allé à la rencontre des antipubs et plus précisément de Jean-Christophe Van de Velde de l'association RAP, Résistance à l'agression publicitaire. Il est allé le voir parce que les antipubs, avec vous, les militants écolos, il fait partie de l'Alliance pour la planète qui mène cette campagne.
Donc là, on regarde une publicité dans laquelle il y a un 4x4 qui est à l'arrêt sur une falaise avec son conducteur, visiblement, qui est sorti donc du véhicule et qui admire une chute d'eau, une cascade magnifique avec un oiseau qui vole, etc. On a l'impression qu'avec un 4x4, on peut aller à la rencontre de la nature. Or, quand on a un 4x4, on ne va pas à la rencontre de la nature, on est plutôt dans le sens inverse, on contribue à la destruction de la nature. Alors, il y a un code de déontologie qui a été établi par le Bureau de vérification de la publicité, avec notamment une recommandation donc écologique qui nous dit clairement « Le choix des signes ou des termes utilisés dans la publicité, ainsi que des couleurs qui pourraient y être associées, ne doit pas suggérer des vertus écologiques que le produit ne posséderait pas. » Donc là, on est vraiment dans la publicité trompeuse. C'est une perversion des préoccupations en fait, citoyennes. C'est un détournement du discours écologiste. On le prend pour faire du profit.
Pourquoi on a pu voir cette pub si le BVP a donné des directives ?
Parce que les directives du BVP, en fait, ce n'est pas des directives, c'est des recommandations. Donc le terme est clair, il n'y a pas du tout de contraintes derrière ça. Donc c'est des règles de déontologie qui a surtout pour fonction de faire penser aux gens que la pub est vérifiée, justement. Que la pub est contrôlée, mais la pub n'est pas contrôlée. Le BVP, c'est un syndicat publicitaire, il se contrôle eux-mêmes, il s'autocontrôle, c'est de l'autodiscipline. Et ça ne marche pas, puisque les propres recommandations du BVP ne sont pas du tout appliquées par ses membres. Surtout, au-delà de ça, il faut un cadre réglementaire construit par les parties prenantes pour protéger les citoyens, tout simplement.
Là, on regarde une autre publicité, c'est quoi ?
Donc, c'est une publicité pour France Télécom qui nous dit Si vous êtes parti de chez vous en oubliant d'éteindre la lumière et de protéger la couche d'ozone, vous pourrez le faire de votre bureau. Bon, ok, ça peut être pratique, hein. Bah, le problème, c'est que donc, les personnes qui ont conçu cette publicité, les publicitaires, ont carrément confondu couche d'ozone et effet de serre, en fait. Donc là, il y a carrément une bourde énorme des publicitaires qui confond deux thèmes majeurs de notre société, effectivement, du problème environnemental, le problème de la couche d'ozone et le problème du réchauffement climatique. Or, c'est passé dans toute la presse écrite, notamment cette publicité, et le bureau de vérification de la publicité, le BVP, n'a rien fait. Donc on voit par cet exemple que le BVP ne contrôle rien du tout, ne vérifie rien du tout, puisque même des bourdes de cette taille-là, des erreurs scientifiques, n'est pas du tout relevé par le BVP.
Service public, 01 45 24 7000.
Voilà, charge de Jean-Christophe Van de Velde, militant anti-pub contre le BVP. En résonance, avant de vous donner la parole, Anne Chanon, quelques messages d'auditeurs. Marion de Paris qui nous dit « Je trouve ça sidérant que le BVP se dise incompétent dans tel ou tel domaine pour juger une publicité. Mais dans ce cas, à quoi sert le BVP ?» Message également de Charles-Édouard qui nous dit qu'il semblerait que ces publicités diffusées qui utilisent la méthode du diptyque sont risibles. Qui croit aujourd'hui que Total, puisqu'on parlait de Total tout à l'heure, travaille pour l'environnement? Et là, question de Charles-Édouard, le BVP ne comporterait-il pas par hasard des membres de l'entreprise Total dans son comité? Réponse tout de suite, c'est non, j'imagine. Non? Oui?
Non.
Ah, peut-être?
Non, mais ça se pourrait.
Ça se pourrait.
Non.
Message également de Jean-François Pinto qui nous dit il ne faut pas en attendre trop du BVP, il ne s'agit pas d'un service de contrôle indépendant, mais d'un organisme organisé par les industries et les services concernés, l'autocontrôle à ses limites. Voilà, on voit plusieurs questions qui sont posées par les auditeurs. La question, effectivement, du contrôle. Quel est votre contrôle? Et la question de l'autorégulation, parce que je crois que le BVP est bien un organisme d'autorégulation.
Absolument, c'est de l'autorégulation. Donc effectivement, ce sont les professionnels qui, il y a 70 ans, ont créé cette association en lui donnant pour mission de veiller justement à cette confiance dont parlait Jacques-Olivier, la confiance des consommateurs, et donc d'éviter de choquer, de raconter n'importe quoi et d'induire des effets nocifs. Alors, pour revenir sur le BVP, Club entre professionnels, ça, c'est une critique qu'on entend tout le temps et c'est très lassant. Personne ne se cache au BVP d'être effectivement une association de professionnels. C'est même dans le nom du BVP, Association des professionnels pour une publicité responsable.
C'est vrai, c'est écrit sur votre site.
Simplement, si le BVP fonctionnait, si l'autorégulation fonctionnait en cercle fermé, ça se saurait. On ne peut pas fonctionner en cercle fermé, tout simplement parce que ça ne tiendrait pas la route 10 secondes. Ça fait 70 ans que ça marche. Et ça marche, pourquoi? Mais ça marche parce que on est sous le regard de la société. Essayer de préserver la confiance des consommateurs sans se préoccuper de la confiance des consommateurs et des sensibilités des consommateurs, il faudra qu'on m'explique comment on fait. Ça marche parce que il y a autour des agences, le CSA, la DGCCRF, l'État, les ministères, etc. Et puis ça marche surtout parce que il y a les professionnels qui sont responsables et qui savent que la valeur première de la publicité, c'est la confiance que leur accorde leur consommateur. Donc effectivement, ils essaient, ils sont là pour
donc
séduire.
Donc vous renvoyez la responsabilité sur les consommateurs, en fait.
Non. La responsabilité
de trouver le juste,
pleine et entière.
De différencier le juste du faux,
non,
le vrai.
Non, pas du tout. Le du discours mensonge, du BVP et la position des annonceurs sur ces questions-là, c'est qu'il faut laisser la possibilité à ces annonceurs qui travaillent sur ces sujets de s'exprimer. Ce qu'il faut, en revanche, c'est donner aux consommateurs les moyens d'apprécier. Donc l'information.
Est-ce qu'il y a un pouvoir de sanction du BVP?
Alors ça aussi, ça c'est l'éternel.
Mais si vous estimez que parce que il y a quand même écrit dans vos statuts, il y a quand même écrit que vous menez une action en faveur d'une publicité loyale, véridique.
Absolument.
Et saine dans l'intérêt des professions intéressées, des consommateurs et du public. Là, on a vu passer un certain nombre de publicités qui n'étaient pas totalement loyales, pas totalement véridiques et pas totalement saines. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans un cas comme ça? Est-ce que vous pouvez imposer aux publicitaires et aux annonceurs des modifications définitives, si ce n'est un retrait total de cette publicité?
Absolument. Alors, je reviendrai sur la question des sanctions. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'essentiel de l'autorégulation telle que le BVP l'anime fonctionne sur la prévention. 99% de notre action, c'est la prévention. Ça part du principe simple qu'il vaut mieux qu'une mauvaise publicité ne soit pas diffusée plutôt que d'intervenir a posteriori.
Donc voyons, là, cette publicité arrive, vous la jugez voyons, pas bonne, est-ce que vous pouvez l'interdire?
Nous voyons dans l'année plus de 30 000, je crois qu'on est à 32 000 projets dans l'année. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 32 000 projets, il y en a 30% qui sont entre guillemets retoqués par le BVP. On contacte l'agence, on contacte l'annonceur et on leur dit, là, il y a un problème, il faut préciser, ou alors vous ne pouvez pas dire ça, ou carrément, cette publicité-là ou cette idée-là, vous la mettez dans la poubelle. 30%, c'est énorme.
Jacques-Olivier Barthes.
Moi, je voudrais réagir sur les propos d'Anne Chanoncel. Et les faits sont têtus, ils sont entêtants. En 2005, il y a eu un sondage Sofres qui rappelle que 43% des Français se déclarent plutôt opposés à la publicité. Ils étaient 36% en 2002. Donc la sanction, elle arrive de fait. C'est-à-dire que les Français, la publicité, ils n'y croient plus. Et il y a simplement 37% qui restent favorables. On a commandé, là, pour National Geographic, un sondage sur, la santé et l'environnement. 95% des Français souhaitent une réglementation. Ils ne demandent pas une autorégulation, une réglementation en faveur d'une information plus complète et plus accessible sur les risques que peuvent comporter la consommation des produits pour la santé et l'environnement. Ils ne demandent pas une autorégulation, ils demandent une réglementation par les pouvoirs publics.
C'est très français. Donc pour
c'est que les gens ne croient plus du tout actuellement dans l'autorégulation du BVP.
Et vous vous dites, Jacques-Olivier Barthes, pas assez de réglementation française sur ces sujets.
Mais c'est pas une question, pas plus ou moins de réglementation, c'est quand vous avez une crise de confiance, faut retisser de la confiance. Et dans ce cas-là, on ne peut pas avoir un juge qui est à la fois jugé parti. C'est aux autorités publiques de réglementer.
Et
vous
Alors, avez... On a avec nous Martine, pardon, je vous interromps au téléphone, qui nous appelle de Haute-Savoie et qui, elle, parle justement, va vous parler, Martine, en gros, de la confiance. Est-ce qu'on peut éduquer ou pas le public que nous sommes à ces images, à cette publicité? Bonjour Martine.
Oui, bonjour. Eh bien, moi, je voulais intervenir parce que j'ai deux casquettes. C'est à la fois, je suis enseignante et j'essaye de faire, durant mes cours, de l'éducation à l'image. Et je suis aussi maman de deux adolescents et je me suis rendu compte que c'était totalement illusoire de croire qu'on allait, bon bien sûr on fait de l'éducation à l'image, mais notre pouvoir et puis notre impact notamment sur des jeunes, il est très faible par rapport à l'impact de la publicité. Et moi je m'inscris un peu en faux contre les gens qui disent oui mais il faut faire de l'éducation et puis c'est aux gens d'être responsables, parce que effectivement on va la faire cette éducation, mais les gens que ça va vraiment toucher, c'est les plus faibles d'entre nous, on aura beaucoup de mal à les toucher. Et donc moi je suis d'accord avec l'intervenant du WWF, il faut absolument que les pouvoirs publics réglementent la publicité, parce que les plus faibles d'entre nous, on n'arrive pas à les toucher ou difficilement, et donc ce sont ceux qui sont les plus malléables. Et par rapport à l'environnement, la question quand même est grave maintenant, et je crois que dans ce domaine-là, il faut que les messages que l'on donne au grand public soient des messages qui soient fiables, parce que sinon les gens vont plus savoir que faire, et puis il va y avoir un sentiment de fatalité, puis ils diront bon, moi je fais rien quoi. Donc moi je crois que la publicité marche, d'ailleurs quand on dit il faut rendre les gens responsables, la publicité est très efficace, elle marche bien, sinon les entreprises n'investiraient pas.
Mais pas autant d'argent dans la publicité, c'est pas faux ce qu'est en train de dire notre auditrice Anne Chanon justement. Pourquoi tout reporter sur le poids à un moment du public, de ceux qui visionnent ces publicités? On sait bien que la publicité a quand même un pouvoir extrêmement insidieux et pervers aussi sur nos cerveaux quelque part. Elle sait comment entrer dans nos têtes. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus d'agences de marketing qui travaillent aujourd'hui à savoir comment toucher les consommateurs que nous sommes.
Je ne crois pas avoir dit que toute la responsabilité, je ne l'ai pas dit, que toute la responsabilité reposait sur les consommateurs. Je ne l'ai clairement pas dit, je ne le pense pas. Et j'ai surtout parlé de la responsabilité des annonceurs et des professionnels, parce que c'est ça qu'incarne le BVP. Et personne ne peut se plaindre.
Mais qui cherche à protéger le BVP? Nous, les consommateurs, ou les annonceurs et les publicitaires?
Protéger le BVP, si vous voulez, demander aux publicitaires ce qu'ils pensent du BVP. Et alors là, on verra si le BVP n'est pas indépendant. Les publicitaires, ils sont contrariés par le BVP. Le publicitaire, le BVP, c'est un empêcheur de tourner en rond. Et c'est très bien. C'est pour ça qu'il a été mis là. C'est un arbitre. Donc simplement, je reviens. La responsabilité, elle est collective, mais personne ne peut se plaindre, je ne vois pas qui pourrait se plaindre du fait que les professionnels soient responsables. Hein, la réglementation, c'est très bien, la loi, c'est très bien, ça met des jalons, mais qui peut se plaindre qu'à un moment donné, une profession dans son intégralité dise « il faut ». Parce que notre discours a de l'influence, on a du pouvoir, on a de plus en plus de pouvoir. Donc c'est important de penser non seulement la liberté de création, mais la limite qui va avec la liberté de création. Bien, je ne vois pas ce qu'il y a de critiquable là-dedans, surtout quand on voit l'énorme travail qui est fait derrière ensuite pour effectivement essayer de dans toutes les difficultés à la fois subjectives et techniques, hein, on revient au problème de l'expertise, j'aimerais en dire un mot si vous voulez bien, que ça suppose. L'expertise, c'est important parce que sur des sujets comme ça, par exemple, on a été interpellé hier sur une publicité pour des ampoules à basse consommation qui passent actuellement à la télévision, très belle publicité, et un consommateur nous a interpellé en disant « mais c'est quoi cette bêtise ? Ils prétendent économiser le CO2 avec des ampoules à basse consommation, alors que 80% de l'énergie en France est d'origine nucléaire, donc ne produit pas de CO2. Qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde à ça ? Tout ça est bien plus compliqué que des espèces de raccourcis de ce type-là. Donc
Jacques
l'expertise,
on peut pas tout mettre
sur l'expertise. Le BVP ne peut pas tout savoir. Voilà, le BVP ne peut pas tout savoir. Donc par exemple, sur ce sujet très précis, qui n'est qu'un des sujets sur lesquels on travaille, on a engagé un partenariat avec l'ADEME pour effectivement, petit à petit, monter en charge en termes de compétences. Mais ce sont des sujets très
Jacques-Olivier Barthes, est-ce qu'il faut mettre tout sur le dos du BVP ? Est-ce que là aussi, les annonceurs, les publicitaires ne sont pas en grande partie responsables ?
La question n'est pas de mettre tout sur le dos du BVP. Vous savez, les investissements en communication, c'est 31 milliards d'euros par an. C'est 2% du PIB. Il faut quand même remettre aussi les chiffres. Tout à l'heure, la personne qu'on a eue au téléphone rappelait sur la question de l'éducation aux enfants. Quand un enfant qui regarde une grande chaîne nationale de 9h à 12h, il est soumis à 80 spots. Vous voyez un peu quand même l'impact que ça a sur les mentalités. Donc ce que nous on dit simplement sur le BVP, c'est on souhaite que la société civile soit partie prenante de la régulation. On ne peut pas limiter les gens à soit consommateur et tais-toi.
Est-ce que c'est mieux ailleurs ? On ne s'est pas dit ça. Est-ce que ces organismes de régulation en Angleterre, en Allemagne, fonctionnent autrement ? Ou est-ce que c'est aussi
Pour ce que je connais par exemple sur la régulation en Grande-Bretagne, vous avez aussi un système d'autorégulation. La grande différence avec la France, c'est qu'ils ont un système de sanctions. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, il y a un conseil de la presse au-delà de... Je suis d'accord, mais a priori, c'est pas une contre-vérité. C'est un système d'autorégulation avec un pouvoir de sanction. Il faut prendre le cadre juridique global. Dans les pays anglo-saxons, vous avez un système de contrôle a posteriori qui repose sur les class actions, ce qui n'est pas le cas en France. En France, on n'a pas réellement de contrôle a priori et on n'a pas non plus de contrôle a posteriori. Voilà, ça c'est la réalité. Je veux dire, quand on voit les procès qu'il y a aux États-Unis sur l'industrie du tabac, c'est en grande partie grâce aux class actions. À ma connaissance, pour l'instant, en France, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est des réalités concrètes.
Si vous permettez, je voudrais simplement... C'est toujours mieux ailleurs, hein, c'est toujours mieux chez le voisin.
On peut toujours préférer,
c'est mieux, les Anglais, ils interviennent a posteriori. Je ne sais pas si c'est mieux d'empêcher une publicité avant qu'elle sorte ou de la laisser se diffuser puis après de dire « Oh, c'était pas bien ». Mais enfin, entre-temps, il y a des millions de gens qui l'auront vu. Dire qu'ils ont un système de sanctions que nous n'en avons pas, c'est absolument de la désinformation. Nous avons exactement, vous permettez que je finisse, c'est exactement le même système de sanctions. Ça se joue au niveau de la réputation. Ils ont un système qu'ils expriment en anglais, ça s'appelle « name and shame », c'est-à-dire que l'annonceur qui ne respecte pas leurs consignes, c'est la même chose pour le BVP. « Name and shame », ça veut dire « on donne son nom » sur la place publique. Ils font exactement la même chose.
Je voudrais une dernière question à vous, Jacques-Olivier Barthes, très rapidement, je voudrais laisser la parole aux auditeurs pour la fin. Vous avez interpellé aussi les pouvoirs publics. Quelle réponse ?
Écoutez, pour l'instant, comme vous le savez, on est en période électorale, donc les pouvoirs publics sont un petit peu passifs. Mais on ne va pas s'arrêter comme ça. On a l'intention de sensibiliser en particulier la représentation nationale, puisque nous avons des élections cette année.
Et vous aviez interpellé aussi le BVP, vous aviez pu parler vous avez trouvé, je suppose...
Et l'ensemble des associations professionnelles.
Une transition. Je voulais vous dire quelques messages d'auditeurs avant qu'on se quitte. Mmh. Un message de Gabriel qui disait que la publicité, elle n'est pas là pour notre bien, que c'est le deuxième budget planétaire après le militaire et que sans la pub, les produits baisseraient de 20%. Sans la pub, les grosses bagnoles, les clims, le béton, le nucléaire se vendraient certainement moins. Sans la pub, on aurait peut-être aussi quand même un peu moins d'obèses, nous dit-il. Pas mal de messages également toujours sur le BVP, au service des publicitaires ou pas. Mais je crois que sur cette question, Anne Chanon a très bien répondu que le BVP était aussi au service de nous, consommateurs, même s'il était majoritairement composé quand même de professionnels. Enfin, vous pouvez aller sur le site internet site du BVP, www.bvp.fr.
Absolument. .org.
.org, pardon, pour connaître un peu mieux les fonctions du BVP. Et cette citation, pour conclure, de Ezra, qui nous dit « La publicité est un tank peint en rose reste un tank ». Voilà.
Je voulais juste donner aussi le site de l'Alliance, www.l'alliance.fr.
Et vous retrouverez tout ça sur le site internet de Service Public